Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de débuter la semaine en votre compagnie. Un événement à la une, un vrai. Sans star, ni haine, ni défaite, le Bayer Leverkusen a bouleversé le football européen. Et quand je dis sans haine, il faut le prendre au pied de la lettre. Le Bayer a délogé le Bayern au sommet du championnat allemand. Le Bayer n'est plus Leverkusen, le club qui ne gagne jamais. 120 ans après sa création, il soulève enfin le bouclier. Et avec la manière, s'il vous plaît, un triomphe signé Xabi Alonso, mais pas que. Bonjour David Lortolari.
Bonjour Hugo, bonjour à tous. Un vrai événement pour le coup.
Ah oui, exactement, et ça va être votre émission ce lundi. Vous êtes bien entouré, néanmoins, avec des consultants suffisamment chevronnés pour savoir que le Bayern n'est pas le seul grand club du football allemand. Bonjour Chérif Guémour.
Bonjour tout le monde, bonjour à tous.
Et bonjour Hervé Penaud.
Bonjour, et je dirais une chose aujourd'hui, Wiggins. Ah. Eh ben voilà, un petit peu polyglottisme, ça prend pas de mal.
Alors ça veut
c'est
dire
beau,
quoi
ça, comme
mot. Ça veut dire quoi?
Parce que bah, moi je suis hyper
polyglotte de ce point de vue-là.
Je bin ein Berliner, vous savez, on connaît tous.
Ok, très bien. Je crois qu'il s'était un peu trompé, Kennedy, pour le coup. Oh, il avait parlé d'un gâteau plutôt que
c'est
du
chose.
Fait d'être un,
c'est autre chose.
un amoureux de Berlin. Alors oui, il s'est passé pas mal de choses en Angleterre ou en France. Également ce week-end, nous en parlerons. Mais commenter un titre qui ne soit pas munichois en Allemagne, c'est tellement rare. Alors nous n'allons pas bouder notre plaisir. Et moi aussi, je me mets à la langue de Goethe. Désolé. Willkommen, Zoom, Radio Foot.
Pas mal.
L'ouest de l'Allemagne. Il y a une petite ville qui existe et qui brille aux yeux de l'Europe depuis plusieurs décennies maintenant grâce à son club de football. Leverkusen.
Leur club de football, le Bayer Leverkusen, est champion d'Allemagne pour la première fois de son histoire en 120 ans d'existence. Le Bayer Leverkusen a réussi l'exploit, mettre fin à 11 ans d'hégémonie du Bayern Munich. Avant même le coup de sifflet final, une marée de supporters rouges et noirs envahit la pelouse.
Weiter auf Wirth. Florian Wirth, wieder drin. Das kann jetzt selbst der Coach nicht glauben. Florian Wirth.
Danke to Robert Andrich for Florian Wirth. And Wirth. Oh, oh my goodness!
Et une manita pour parfaitement terminer le travail. Et quel travail! Vous l'entendez, ça mérite bien une musique solennelle. 29 matchs, 25 victoires, 4 nuls et surtout 0 défaite en championnat. Il reste 5 journées à négocier, me semble-t-il, pour ne pas gâcher ce formidable tableau, celui que nous a peint le Bayer Leverkusen cette saison. Premier titre de champion pour un club qui a 120 ans et dont les échecs ont parfois été légendaires, le Pouli d'or du foot allemand. Je ne sais pas si les moins de 20 ans ont la référence, ceux qui ont rarement vu un autre club que le Bayern Munich s'imposer en Allemagne. Le Bayer Leverkusen, lui, a souvent été capable de tout perdre à la dernière minute. Qu'on pense à cette année 2002 où même la Ligue des Champions lui échappe en finale. Bayer, le géant pharmaceutique et agrochimique qui donne son nom au club, a peut-être trouvé un remède miracle pour gagner des titres. Ce ne sont pas des accusations de dopage, je vous rassure tout de suite. Parler de Bayer, l'entreprise, David Lortolari, c'est surtout pour parler du Bayer, le club qui découle de cette entreprise, le situer dans le panthéon du football allemand et ainsi situer son titre de champion d'Allemagne dans l'histoire du football. C'est quoi le profil du Bayer Leverkusen au-delà de ce Leverkusen, de ce club qui ne gagnait jamais mais qui était souvent placé?
Souvent placé, précisément. C'est un club de standing européen qu'on imagine bien, bien figuré dans une Ligue Europa ou dans les huitièmes de finale d'une Ligue des Champions éventuellement. Je ne parle pas de cette année, hein. Je parle de ce qu'on s'imagine comme, comme ampleur d'un club comme ça. Avec effectivement l'époque Balak, dont on se souvient, cette époque effectivement à la charnière du 20 et du 21e siècle, avec des quasi-trophées qui n'ont jamais été.
Ah bon, en 2002, ils perdent le titre quasiment à la dernière journée. À la dernière journée, peut-être.
En 2002, c'est
la Coupe en finale, la Ligue des Champions en finale.
20 ans pour basculer ce traumatisme, pour oublier ce traumatisme. On a parlé effectivement dans le langage registre anglophone de Neverkusen parce qu'il n'y arrivait pas pour gagner un trophée. Mais on parle en Allemagne de Vizekusen parce que justement c'était le deuxième. C'était le deuxième avec pourtant des joueurs et des entraîneurs de pointe. Il y a eu quelques cadors qui sont passés par là. Et puis, c'est le paradoxe peut-être de cette saison, c'est qu'il y a moins de joueurs très connus et que c'est peut-être le collectif cimenté par Xavi Alonso qui fait la différence.
Et au niveau de la dimension, on va dire, populaire, historique, on aime les grandes institutions avec plein de fans, des stades remplis en Allemagne. Est-ce que Leverkusen se situe dans cette lignée-là, celle des Schalke, des Hambourg, des clubs, des Cologne, des clubs encore une fois, dont les jeunes ne situent pas tout à fait l'ampleur, mais qui drainent avec eux des cohortes de supporters. On connaît Dortmund aussi, évidemment, dans ce registre-là. Leverkusen, c'est peut-être un petit peu plus feutré.
Absolument.
On souffle aussi les clubs de Berlin dans l'oreille.
C'est bien, Hugo, de profiter de notre émission pour remettre un peu les choses au point, parce qu'on a vu passer des contre-vérités sur les réseaux sociaux, notamment avec les photos de foule depuis le titre. On n'est pas du tout dans la catégorie de Mönchengladbach, de Cologne, de Hambourg, de Dortmund, des clubs de la Ruhr en général. On est dans une ville de 170 000 habitants à peu près, et il y a eu quelques moqueries astucieuses qui ont circulé depuis ce samedi sur les réseaux en Allemagne, disant le rassemblement de foule après le titre, ça équivaut au rassemblement pour un entraînement de Schalke un lundi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des centaines de milliers de personnes. Alors, oui, il y a des supporters, oui, il y a des fidèles, oui, il y a une histoire, Hugo, mais ça n'est pas un club du standing de Dortmund, des clubs de Berlin, effectivement, de Hambourg et des clubs, des villes de plusieurs centaines de milliers d'habitants. C'est plus feutré. Dans le stade, il y a une belle ambiance aussi, mais c'est pas non plus une
immense
enceinte.
C'est un peu la préfecture, voire sous-préfecture de province.
Je suis assez sur ce créneau-là.
Ce serait quoi en France ? Ce serait quoi ? Angers qui serait champion de France ? Dijon qui serait champion de France ?
C'est comme une ville qui est un peu plus grande, mais oui. Surtout il y a
Strasbourg.
Strasbourg, ça reste quand même une grosse ville.
Et
en
alors,
France,
est-ce qu'on est sur, pour rester dans les comparaisons, est-ce qu'on est sur du Leicester en Angleterre 2016 ? Ou du Montpellier en France 2012, c'est-à-dire des énormes surprises qui viennent bouleverser la hiérarchie. Un club qui ne gagnait jamais, mais qui était souvent placé.
Oui, Montpellier.
Ah, il y a un oui, un non.
Alors, on va
commencer par le oui. Allez, si le oui, quand même.
Ah oui, mais moi, je pense qu'on est de ce calibre-là, parce qu'on parle quand même d'une équipe qui est championne 5 journées avant la fin. Et vous vous rendez compte ce que c'est ? C'est-à-dire que vous avez quand même l'hégémonie du Bayern depuis 11 titres. Logiquement, ils étaient encore favoris. Alors, c'est vrai que ça s'arrête toujours à un moment. Hein. C'était comme pour le Paris Saint-Germain, ça fait partie de l'histoire.
Même la Juve,
etc. Ça s'arrête toujours à un moment. Mais s'arrêter de cette manière-là, contre un adversaire qui, à première vue, n'est pas non plus l'équipe numéro 2. Si vous nous aviez dit Leipzig, Dortmund, etc. Là, on aurait dit, pourquoi pas ? Mais là, c'est vraiment l'équipe qui vient. Alors, je ne dis pas de nulle part, mais vous connaissez quasiment aucun des joueurs avant le début de la saison. Florian Wirtz, évidemment. Mais sinon, pour tous les autres, c'est des joueurs plutôt inconnu. Alors, bien sûr, moi, j'en connais pas beaucoup, pour tout vous dire. Hein. Les Tapsoba, les Kosono, il y a beaucoup d'Africains.
Il y a beaucoup de joueurs africains. On y revient.
Donc, pour moi, c'est du calibre de ce genre de surprise. Alors, bien sûr, il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier, qui est un petit peu différente du championnat d'Angleterre, même s'il n'y a jamais de surprise en Angleterre, hein, c'est toujours les cadors qui sont là, c'est qu'il y a tellement de cadors que chacun se prend des points, d'une certaine manière. Donc, un Leicester peut, au final, gratter cette victoire-là. Tandis que du côté du Bayern, généralement, il est échappé très, très, très peu de points. C'est quand même rarissime de voir le Bayern avec autant de défaites.
Chérif Guémour, pourquoi est-ce que ce n'est pas un exploit du type Montpellier 2012 en France ou Leicester 2016 en Angleterre ? C'est-à-dire vraiment un outsider.
Parce qu'à Leicester et à Montpellier, il n'y avait quasiment pas d'internationaux. Or, l'équipe de Leverkusen, il y a beaucoup d'internationaux. Et Palacio, c'est champion du monde, quand même. C'est pas n'importe qui. Ta a été. Hoffmann ont été internationaux. Wirtz l'était déjà. Puis on connaissait. Puis les Africains qui sont en défense, ils sont pratiquement Radeki, c'est le gardien de l'équipe. Non, là, on part quand même sur du... Au niveau de l'effectif, c'est assez costaud.
Les Mahrez, Kanté, tout ça, c'était costaud. Mahrez, il fait une saison incroyable.
Non, c'est la révélation.
Oui, alors là, vous parlez de Leicester 2016.
Si on compare les deux,
ces joueurs se révèlent. Mais c'est vrai
qu'à à
l'époque, n'ont pas de pedigree.
Enfin, Boniface, il se révèle pas cette année. Même, on va dire Tapsoba, pour ceux qui ne suivent pas tellement.
Moi, je parle des autres. Je parle des beaux. Chacun, justement, c'est une valeur européenne confirmée.
On va essayer de faire les choses dans l'ordre. Vous basculez sur les individualités, et c'est bien normal. Les hommes clés du titre, c'est ce qui nous intéresse, puisqu'en football comme en chimie, on parlait de Bayer, il faut de bons éléments, il faut aussi savoir les assembler parfaitement. Alors, quelle est la recette du succès de Leverkusen cette saison, et surtout quel génie a su l'imaginer, cette recette, et l'appliquer parfaitement? Je crois qu'assez naturellement, une piste s'impose. Il faut regarder du côté du banc de touche. Je fais signe en régie pour voir si on m'écoute, pour parler du coach Xabi Alonso. Mathieu De Gueldre est-il réceptif? On va parler de Xabi Alonso, l'entraîneur évidemment du Bayer Leverkusen.
Une nouvelle défaite, cette fois en Ligue des Champions contre Porto, pousse les dirigeants à prendre une décision inévitable, licencier le coach Gerardo Seoane, qui est remplacé par quelqu'un que personne n'attendait, Xabi Alonso.
Aïe la traîna ! On a un entraîneur génial, il a fait tout ce qu'il fallait, un bon entraîneur motivé. Il a amené l'équipe là où elle est aujourd'hui. Cet entraîneur, c'est Xabi Alonso. Champion d'Europe et du monde avec l'Espagne, l'ancien joueur a réussi son passage du terrain au banc d'entraîneur.
Xabi Alonso.
Et comment Xabi Alonso a transformé le Bayer Leverkusen en une machine à gagner?
Xabi Alonso, meilleur entraîneur du moment.
L'équipe de l'année, c'est le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, les amis.
Xabi Alonso!
I think it starts first of all with the manager.
Les gars, c'est costaud.
Oui, le débat se poursuit. Ce titre est-il avant tout l'œuvre de l'entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, le Basque, côté espagnol, légende de son équipe nationale, vainqueur de la Coupe du Monde et de 2 euros, légende du Real Madrid, légende de Liverpool en Angleterre et ancien joueur du Bayern Munich également.
La totale.
On va souvent la faire, hein, Bayern, c'est compliqué. Xabi Alonso ne nous facilite pas la tâche. Il a terminé sa carrière de joueur donc en Allemagne du côté du Bayern, et c'est le Bayern qui lui a donné sa chance chez les grands sur un banc de touche. Il a repris ce club au bord du gouffre la saison passée pour le hisser au sommet en moins de 2 ans. Et déjà l'année dernière, il avait réalisé des petits miracles, David Lortolari, Xabi Alonso, c'est ça, hein?
Oui, on discute pour savoir s'il y a un match fondateur, un match référence qu'on pourrait effectivement retrouver de la saison dernière ou qui lancerait un peu cette dynamique qu'on a trouvée éclatante cette saison. Avant Xabi Alonso, pour être tout à fait précis, il y a l'homme qui l'a fait venir, c'est le directeur sportif de Leverkusen, Simon Rolfes, qui lui aussi est sur le banc à l'occasion des matchs, ancien numéro 6 de l'équipe nationale aussi. Donc on se comprend sans doute entre ces deux hommes sur la science du jeu, sur la tactique, sur la stratégie. Simon Rolfes a fait venir Xabi Alonso, c'est un risque pour un club comme ça parce qu'il débute sa carrière d'entraîneur. Et il a agrégé, on va forcément en parler aussi de loin en loin, il a agrégé les joueurs qui constituent l'équipe à la mesure de Xabi Alonso. Ça, c'est très fort.
Il parle allemand, Xabi Alonso?
Oui, il parle allemand.
Eh bien justement, on va l'écouter, Xabi Alonso, en allemand. Je ne sais pas, mais on l'écoute.
Enfin, Leverkusen est champion d'Allemagne. C'est un grand honneur pour tout le monde. C'est complètement mérité pour cette équipe, pour les supporters et pour le club. Mais pas seulement. C'est une fierté aussi pour les entraîneurs, les directeurs sportifs et les joueurs qui y sont passés. Ils se sont battus avec acharnement pour nous permettre de remporter ce titre.
Mais oui, il parle allemand, il parle bien, en tout cas à mon échelle, puisque je ne parle pas du tout. Et il rend hommage à ses joueurs. Mais alors, quelle est sa part? Parce que Xabi Alonso... Bon, c'est vrai que depuis Guardiola, avec aussi Zidane, le côté du maître à jouer sur le terrain, star en tant que joueur, qui devient un maître tacticien, un joueur d'échecs sur le banc de touche, c'est un fantasme. Et là, il se réalise un peu sous nos yeux. C'est un joueur qu'on a adoré voir jouer et dicter le tempo quand il était sur le prêt. Et là, c'est quelque chose d'assez incroyable de le voir réussir à ce point-là. Est-ce que c'est vraiment un très, très grand entraîneur là, qui s'est élevé, érigé sous nos yeux, Chérif Guémoin?
Déjà, il a eu parmi les entraîneurs, il a eu quasiment les meilleurs. Il en parle avec beaucoup de respect, de référence.
Faisons la liste.
Mourinho annonçait déjà ces dernières années
Benitez également à Liverpool.
Ouais, il avait déjà commencé.
Ancelotti au Real.
Voilà, bah, il a eu les plus grands.
Guardiola au Bayern. Oui. Et puis, Reinald Denweghs du côté de la Real Sociedad à ses débuts. Je ne dis pas ça pour
Il a eu les plus grands. C'est un technicien qui a des convictions. Le 3-4-3, ce n'est pas simplement un schéma sur un tableau noir. Il a su l'animer. Avec les joueurs qu'il fallait, et il avait les joueurs pour ça. Il a une grande qualité que n'ont pas tous les entraîneurs, c'est-à-dire qu'il sait constituer une équipe, c'est-à-dire une équipe type. Hein. Donc, il sait le faire. Et surtout, je pense qu'il a fondamentalement compris qu'en Bundesliga, où on aime le déséquilibre, on aime le jeu vers l'avant, il fallait d'abord trouver un équilibre, c'est-à-dire une bonne base défensive. L'équipe de Leverkusen marque beaucoup de buts, mais d'abord, elle en encaisse pas beaucoup. Elle en encaisse, évidemment, parce qu'il y a une prise de risque. Mais elle n'en encaisse pas beaucoup. Et c'est une chose fondamentale en Bundesliga où on aime bien se projeter, marquer pas mal de buts. Ce que n'arrive pas à faire, par exemple, Leipzig, qui est une équipe super. Moi, j'adore Leipzig. Le Bayern, évidemment, avec les joueurs qu'ils ont, mais c'est l'an derrière. Et on l'a vu, de toute façon, bah, c'était en février, c'est ça, quand le match au sommet entre le Bayern et Leverkusen. Là, on a vu que Leverkusen, c'était fort devant, 3 buts, 3-0. J'aurais pu en marquer plus. Et derrière, c'est un impénétrable, ce qui n'est pas le cas du Bayern.
Hervé Penaud, vous voyez
une bonne base défensive.
Vous voyez de la graine de grand entraîneur. Alors, c'est un peu facile à dire quand ça gagne, mais...
bah, oui, mais enfin, on peut le dire que
c'est
quand
vrai
ça
que Guardiola
gagne.
Ou Zidane, Guardiola ou Zidane, ça nous rappelle un petit peu ça. C'est-à-dire un grand joueur qui prend une équipe et puis tout de suite, ça réalise des miracles.
Oui, alors c'est différent. Parce que, alors, je le rapprocherais peut-être plus de Guardiola. Que Zidane, il a pris le Real Madrid, il a gagné ses 3 Ligues des Champions, il n'y a rien à dire, mais je ne pense pas que Zidane soit un penseur du jeu. Ce qu'est Xavi Alonso, et pour une raison bien simple, c'est qu'ils ont tous un peu la même culture. Hein. La culture espagnole et tous ceux qui sont passés par le Barça et tous ceux qui sont passés par ce type de club, évidemment. Et on parlait de Reinald Denweghs qui, lui, était un petit peu le petit Barça français, hein, parce qu'il a entraîné Nantes. Ils avaient
voilà,
aussi une manière...
qui a réussi à Nantes, qui faisait très bien jouer Nantes. Et puis,
exactement,
qui a très bien fait jouer
la
Real Sociedad.
La même culture du jeu. La même culture du jeu
des équipes qui ont une identité de jeu.
Une identité. Donc, c'est pour ça que je ne le classerais pas tout à fait dans la même catégorie que Zidane, même si Zidane est un grand entraîneur, lui est un grand entraîneur, mais on n'est pas grand entraîneur simplement parce qu'on a un tacticien, on a un motivateur, c'est un tout. Je veux dire, être un grand entraîneur, c'est comment vous arrivez à impacter sur vos équipes. Et force est de constater que cette équipe-là, c'est lui. C'est-à-dire, c'est une équipe qui lui ressemble. Il voulait jouer comme ça, il a joué comme ça. Il a voulu des hommes, il les a eus. Pas nécessairement les plus clinquants, les plus bling-bling, mais des joueurs qui correspondaient à sa pensée sur le football. Et c'est ça, moi, que je trouve ça admirable de sa part. Grand entraîneur, c'est en tout cas un très très bon entraîneur. Grand entraîneur, on verra les années à venir. Voilà.
Du côté de Leverkusen, à mon avis, il a déjà gagné sa future statue.
Ah bah heureusement.
Si d'aventure, heureusement. On érige des statues devant les stades.
En marbre ou en bronze, la statue.
Ah bah ça, c'est pas à moi de.
Et peut-être en or, s'il gagne la Ligue des Champions.
Mais en or, pourquoi pas. David Lortolari, c'est vrai que quand on pense à Xabi Alonso, le joueur, ses années au Bayern ne sont pas forcément celles qui nous viennent tout de suite à l'esprit. On prend plus à Liverpool ou à Madrid. Et pourtant, on a l'impression qu'entre l'Allemagne et lui, en fait, c'est se nouer une histoire d'amour insoupçonnée.
Oui,
pour qu'il tente l'aventure sur un banc de touche dans ce pays.
Exact, mais avec aussi une... J'allais dire une cellule, pas du tout parce qu'elle n'est pas fermée, mais avec aussi une caravane, une colonie hispanophone qui lui permet aussi d'avoir cette compréhension peut-être du jeu, cette culture du jeu qu'il peut retranscrire sur le terrain. On pensait à Palacios, on pense à Grimaldo. On pense à d'autres aussi, avec un joueur... Avec Granit Xhaka, qui effectivement est le cerveau de cette équipe, le Suisse, très sobre, très précis dans ses passes.
Super recrutement.
À côté de lui, bah oui,
c'est fondamental.
Improbable Xhaka. Aussi.
Oui, il n'était pas hors norme non plus.
C'était un peu au même poste, dans les mêmes caractéristiques.
Oui.
Très beau jeu long, du caractère.
C'est juste.
Un peu moins bon.
Oui, mais avec
Xabi Alonso, il faut le dire pour nos plus jeunes auditeurs, était un joueur incroyable. Il n'était pas juste un bon joueur, c'était un joueur incroyable.
Un des héros d'Istanbul,
Exactement, la finale de Ligue des Champions 2005 de Liverpool renversante.
L'envergure de Xhaka n'est pas comparable avec celle de Xabi Alonso, parce que Xhaka, là, il a un soldat à côté de lui, qui est Robert Andrich, le méchant, entre guillemets, qui est maintenant en équipe nationale, propulsé en équipe nationale grâce à la belle saison de Leverkusen. Il faut aller plus loin Hugo, vous parliez des capacités managériales, des capacités culturelles. Xavi Alonso s'implique à l'entraînement pour faire lui-même les passes dans les sessions d'entraînement. Les passes de Leverkusen, c'est la précision absolue. Ça, c'est Xavi Alonso. S'il n'y a pas Xavi Alonso, il y a 2, 3, 5% de qualité de passe en moins. Et peut-être que tous les scénarios improbables de fin de match, les renversements, les choses comme ça...
Combien de fois ils ont marqué en fin de match? C'est impressionnant.
C'est la signature de cette saison.
Pour un joueur qui a participé au miracle d'Istanbul.
Comme Leicester et Montpellier. C'est pas un entraîneur dogmatique, à savoir je vais fondre l'effectif que j'ai dans mon système.
Donc il est plus Ancelotti ou Mourinho que Guardiola.
Il a dit je bâtis mon système. Alors évidemment on reste sur le 3-4-3 parce que c'est sa marque de fabrique. Je me concentre sur mes joueurs. Je fais avec l'effectif que j'ai.
Il n'est pas typiquement ce que le football espagnol, dont il était l'un des héros, représentait.
Il l'est moins que Luis Enrique.
Il est moins dogmatique. Il n'est pas dogmatique.
Et parce que c'est quelqu'un qui est passé par plusieurs pays. C'est pas mais, l'espagnol
mais,
qui
mais,
est
oui, non, mais il y a mais ça. Il faut et, pas... en plus, comment dire, il a perçu. Enfin bon, ça c'est comme. Tout le monde le dit en Allemagne et même en Espagne, il y a eu l'expérience Guardiola. Guardiola, quand il est parti en Allemagne, on dit mais qu'est-ce qu'il va faire en Allemagne? C'est la Bundesliga et tout.
Et
Guardiola,
a dit
je vais dans un championnat qui est beaucoup plus relevé, qui a beaucoup plus de qualité que vous ne le pensez. Et il a ouvert la porte, notamment à des gens.
Et lui-même a changé. Et lui-même a changé sa manière de voir, parce qu'il faut pas oublier une chose. Absolument. C'est-à-dire que vous avez de départ Xavi Alonso. Il a une manière de voir le football, mais après il va changer, il va évoluer. Et pour moi, j'en veux pour preuve Ancelotti quand il est à Parme, on veut lui filer Roberto Baggio. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi, j'en veux pas. Alors que tout est réglé. Hein. Parce qu'il dit, mais ça rentre pas dans mon système. Moi, j'ai un système de jeu. C'est comme ça. Il n'y a pas de numéro 10, etc., etc. Et donc, ils ne prennent pas finalement part, Roberto Baggio. Et quand il part à la Juve, il est avec Zidane. Et c'est ça qu'il a fait comprendre après. Il s'est dit, ah, maintenant, j'ai compris ce que c'était que d'avoir un grand joueur. Donc maintenant, je vais adapter ce que je veux faire aux joueurs que j'ai. Mais au départ, vous avez toujours un peu de dogmatisme d'une certaine manière.
Et Ancelotti, donc. Il fait jouer Bale, Benzema et Cristiano Ronaldo.
Bon, on va pas refaire la carrière d'Ancelotti, mais qui est l'un des.
Alors lui, un grand entraîneur.
L'un des maîtres de Xabi Alonso. Et à l'époque de la BBC du Real, il y avait Xabi Alonso pour alimenter nos amis dont vous venez de citer les noms. D'autres noms à citer. On a parlé de certains cadres de cette équipe du Bayer Leverkusen cette saison. Eux aussi auront le droit à leur statut. Parlons des joueurs africains, des internationaux africains qui constituent cette formidable équipe, car il y en a, et non des moindres. Le meilleur buteur, c'est un Nigérian, Victor Boniface, 18 buts dans le championnat d'Allemagne cette saison, et c'est pas terminé. Et puis, pardon, excusez-moi, vous voyez,
c'est l'émotion.
Comme ça des internationaux africains. Et puis, je voulais aussi qu'on parle, Hervé Penaud, et d'ailleurs, on va même commencer par eux. Vous voyez, on va rendre hommage aux défenseurs, parce qu'il y a deux internationaux africains qui ont brillé cette saison. Le Burkinabé Edmond Tapsoba, et puis Odilon Kosunou, qui est...
toujours titulaire, pratiquement.
Qui est titulaire.
Il
a été
un petit peu moins.
Il a été un petit peu moins au retour de la CAN, qu'il a remporté avec la Côte d'Ivoire. Allez.
Exact. Celui qu'on ne touche pas, c'est Tapsoba en général. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que Kosunou a été un petit peu moins, mais il a récupéré. Bah, il est joué, hein, il était titulaire encore ce week-end. Mais là, vous avez quand même chez les internationaux africains deux joueurs hors norme. Tapsoba, qui a un côté un peu, Beckenbauer, entre guillemets, c'est-à-dire très très bon techniquement. De temps en temps, bah, il peut peut-être faire des petites erreurs liées
très élégant, très lié à ça.
C'est un joueur phénoménal. Kosunou, un joueur d'impact, un joueur physique, qui est techniquement aussi pas maladroit, mais il a un peu plus dans le combat. On se souvient d'ailleurs que son expulsion durant la CAN, hein, sur une faute sur Sinayoko. Mais c'est deux piliers de cette équipe de Leverkusen, avec Ta, évidemment, cette défense à trois qui a été un peu...
Ta qui a des origines ivoiriennes. Donc
ouais. On est quasiment sur une défense africaine, quasiment 100% Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait tous les deux. Et Tapsoba, qui est vraiment un joueur... En revanche, s'il va rester l'année prochaine, parce qu'on lui prête quelques envies d'ailleurs, hein,
non,
visiblement.
Non, il faut rester.
Non, faut peut-être rester, mais enfin, ça dépend si en Angleterre,
ils
viennent
de leur avenir. Magnifique. Mais cette charnière, c'est pas vraiment une charnière, parce qu'on joue à trois derrière du côté de Leverkusen. En Allemagne, on en dit quoi d'un Tapsoba, parce que c'est pas sa première saison? Est-ce que, par exemple, il est considéré comme l'un, voire le meilleur arrière central de la Bundesliga, David Lortolari?
Il y a à la fois une grande sobriété, ça doit être du respect par rapport à ses prestations, à ses prestations CES, c'est-à-dire ses prestations de tous ses joueurs, qui confirme qu'ils sont acceptés, qu'ils sont considérés comme au premier rang. De mon point de vue, c'est vraiment, enfin, ce sont deux joueurs de très très haut niveau. Ils ont été le ciment de cette équipe-là, y compris en attaque, parce que Tapsoba encore sur le dernier match. Alors évidemment, les minutes passant, le score enflant, c'était plus facile peut-être pour lui de se présenter offensivement. Mais voilà, mais ça c'est bien aussi. Et puis, je vais faire court, mais Adli en attaque aussi, il faut le mentionner, parce que vous parliez de non-dogmatisme.
Marocain.
Vous parliez de non-dogmatisme. Quand il y a Boniface, c'est un jeu puissant, un buffle. Quand il n'y a pas Boniface, c'est Patrick Schick. C'est un autre profil, joueur de tête. Quand ce n'est pas Patrick Schick, parce que check, lui aussi a été blessé, check. Adli, très intéressant aussi. Pas un avant-centre classique, plus dans la profondeur, plus dans la vitesse.
Un peu de joker, pas toujours titulaire.
Complètement.
Mais
Javier Hernandez, remplaçant.
Il s'est adapté à ces profils-là, ce que disait aussi Sheriff, par rapport aux joueurs dont il dispose. Et je crois que les trois attaquants, les trois qui ont tourné sur le poste d'avant-centre, parce que Boniface a quand même été longtemps blessé au cœur de la saison. Ouais. Il faut avoir un jeu différent.
Ce qui lui a fait rater la canne, d'ailleurs.
Peut-être que c'est Wirtz, auquel il faut forcément rendre hommage aussi, qui a mis un peu d'huile dans les rouages entre chacun et les attaquants.
Vous voulez parler de qui? De Boniface ou de Wirtz?
Non, Adli, parce qu'on...
Ou Adli.
Non, parce qu'on l'avait oublié. Et puis
parce qu'il a été mauvais avec le Maroc aussi.
Oui, mais pour...
Pas si mauvais que ça.
Pour compléter.
Un peu sévère.
Le Nigérian, t'es là aussi.
Oui.
À signaler en attaque.
Pour compléter tout ça, c'est aussi... faut mettre ça au crédit de Xabi Alonso. L'équipe de Leverkusen, c'est une équipe à buteurs multiples. Il n'y a pas un buteur à 27 buts, à 30 buts. Ils sont tous à 10-12 buts. Oui.
Boniface, 18. Et puis derrière, Wirtz.
Oui.
Wirtz, 17. Mais je crois que Jonathan Tah, par exemple... a pas mal de buts.
Patrick Schick, il a combien? 6-7.
L'Espagnol Grimaldo qui joue piston gauche.
Grimaldo,
qui est
pareil,
l'un des
6,
meilleurs
7,
buteurs, qui est quasiment en double-double aussi dans les statistiques, par exemple.
Non, puis il y a aussi un élément dans cette équipe de Leverkusen, il y a beaucoup de revanchards. Et ça aussi, il faut savoir les repérer. Je pense à des types comme Tah qui, à un moment, sont notés, qui était le grand espoir en défense de l'équipe d'Allemagne, qui finalement, qui se ressaisit. Grimaldo, dont personne n'a voulu. Un latéral espagnol.
Donc c'est bien une surprise. Tout à l'heure, il nous disait non, c'est non, pas mais dedans, mais personne ne veut de ces joueurs. Mais bon, merci de me donner des arguments, Sheriff. Merci.
Chaka est une valeur sûre. Et on ne découvre pas Wirtz cette année.
La question que tout le monde se posait, et pas qu'à demi-mot, tout à l'heure autour de cette table, ces joueurs, voire cet entraîneur, vont-ils rester la saison prochaine? Le projet Bayer, David Lortolari, est-il durable? Je ne parle pas de l'entreprise, parce que là, pas du tout. Mais du côté du club de foot, est-ce qu'on a quelque chose... qui pourrait durer une saison de plus. En football, dans le football moderne, ce serait déjà énorme.
C'est l'idée du directeur sportif. Je reviens à lui parce que c'est lui qui donne l'impulsion sportive. Simon Rolfes a promis, on va rester là, à ce stade-là, au moment où nous parlons, a promis des renforts, une équipe de statut Ligue des Champions, et a promis surtout de continuer avec les mêmes. Ça ne veut pas dire forcément tous les mêmes, mais avec Wirtz et Xavi Alonso, qui sont les deux qui ont peut-être
Wirtz,
la plus grosse valeur.
Wirtz, il a 20 ans. On peut le préciser, c'est-à-dire qu'il n'est pas pressé.
C'est le fait qu'il fasse une saison de plus jusqu'à la retraite de Thomas Müller au Bayern, à l'été 2025, c'est-à-dire que le Bayern veut Wirtz dans un an et demi.
On va vite revenir à la normale, le Bayern qui vampirise.
Et donc on peut imaginer, on peut espérer raisonnablement une saison qui vient avec un Bayern sur cette lancée-là. C'est ce que tout le monde imagine en Allemagne. Il y a une unanimité autour de ça qui, moi, me paraît peut-être un peu excessive, de se dire qu'ils vont faire aussi bien la saison prochaine. Ça me paraît peut-être un peu chimérique, mais en tout cas, on se donne les fondamentaux pour cela.
Rappelez que la saison en cours n'est pas terminée. Il y a ce titre, mais il peut y en avoir deux autres. Et là, conjurer l'année de 2002 en réalisant un triplé en 2024, Coupe et puis Ligue Europa.
Alors, on y arrive dans le cas d'un triplé. De toute façon, la qualification en Ligue des Champions, elle est déjà assurée. Donc,
oui, c'est les seuls d'ailleurs.
Ça fait beaucoup d'entrées d'argent. Donc, Leverkusen, intelligemment, ils l'ont fait jusqu'à présent. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le refassent pas cet été. Ils peuvent se renforcer avec un ou deux joueurs par ligne. En plus, maintenant, il y a l'attractivité. On sait que Leverkusen... On laisse la chance aux jeunes, on a un entraîneur charismatique, ils sont en Ligue des Champions, ils sont tenants du titre, donc au niveau de l'attractivité...
Tenants
c'est
du titre en Allemagne, hein, pas en Ligue des Champions.
Mais malheureusement, chéri...
Non, attends, je finis.
Oui, je veux bien qu'il finisse.
On a le contre-exemple de l'Ajax 2019, où l'équipe n'est pas allée au bout de son rêve, n'est pas allée au bout du projet, l'entraîneur est parti, les joueurs sont partis. Aujourd'hui, l'Ajax est mal en point, il y a une aventure à vivre et qui, d'après moi... pourrait durer plus qu'un an. Évidemment, c'est un souhait, c'est un rêve, évidemment, mais que ces gens-là réfléchissent bien. Je ne vois pas Wirtz, par exemple, céder aux sirènes de la Première Ligue. Il n'a rien à faire en Première Ligue sur les 2-3 années à venir.
À Radio Foot, les ingrédients du succès sont simples, comme à Leverkusen, le romantisme de Sherif Guémour, des chroniqueurs de talent globalement, et aussi des auditeurs de talent fidèles. Ils sont là sur la durée, eux. On ne les vend pas, c'est sûr.
Bonsoir le plateau Luc à Congo depuis Abubakar au Bénin. Je dis félicitations, félicitations et encore félicitations à toute l'équipe de Bayer Leverkusen et à son entraîneur Xabi Alonso qui n'a jamais entraîné une équipe professionnelle avant Bayer Leverkusen. Monsieur Xabi Alonso, mes respects.
Bonjour à l'équipe de Radio Foot International. C'est Djibi Samb depuis Cœur Sahara Mbata Sénégal. Le Bayer Leverkusen a mis fin à 11 ans d'hégémonie du Bayern Munich dans le championnat allemand. Xabi Alonso, nous attendons au Real Madrid.
Bonsoir RFI, c'est Messi Fidel depuis le Lubumbashi. À propos de la Première Ligue, moi je crois que Liverpool et Arsenal ont commis l'erreur de céder la première place. C'est désormais couille pour eux, City est champion, c'est terminé.
Bonjour à toute l'équipe de Radio Foot International, mon nom est Amadou, je suis d'origine du Mali et je suis au Canada, à Ottawa, je suis aussi Canadien. Concernant l'équipe d'Arsenal, dont je suis fan depuis que j'ai l'âge de 4 ans, j'avais 7 ans lors du dernier titre en 2004, même si on a grillé un joker hier, il reste encore quelques matchs à jouer, donc tout est encore possible. Et si ce n'est pas cette année, ce sera toujours l'année prochaine. Un salut amical à toute l'équipe du jour. Et je salue spécialement mon favori de l'émission, Naïm Moniol.
On salue Naïm Moniol et on salue les auditeurs qui chaque lundi participent aussi à Radio Foot. Quelques notes vocales WhatsApp qui suffisent pour raconter leur week-end et assurer notre jeu en transition. Ils ont parlé de l'Allemagne. Il y avait l'Allemagne, il y avait le Bayer Leverkusen, c'est très bien. Mais il y avait aussi de quoi dire ce week-end sur la Première Ligue.
La deuxième chance, elle est pour Doku, contrée. Allons, à nouveau ! Il n'aura pas fallu longtemps aux Citizens pour ouvrir le score.
Doku, he's deserved a goal.
Henry Doku, what a goal. We are watching a special, special talent.
Allons, Kovacic!
Oh oui! En retrait, Yaïzé pour l'ouverture du score. Les Reds sont bouchés d'entrée par cette équipe de Palace qui ouvre le score. Cette 15e semaine qui va peut-être voir Liverpool tout perdre.
Léon Bailey!
La course au titre a peut-être basculé ce week-end après la défaite de Liverpool. C'est Arsenal qui chute. Le grand vainqueur du week-end en Première Ligue s'appelle Manchester City.
Et oui, les Citizens ont peut-être plié le match à 3 ce week-end. Pas sur le plan mathématique, mais peut-être sur le plan psychologique. City a l'habitude de finir fort ses saisons et de remporter la Première Ligue quasi chaque année. Et justement, City a pris la tête en battant Luton 5-1 ce samedi. Le lendemain, Arsenal et Liverpool ont eu la mauvaise idée de perdre à domicile, respectivement face à Villa et face à Crystal Palace. Résultat, 2 points d'avance pour City devant ses deux poursuivants à 6 matchs. Du terme, Hervé Penaud, Manchester City a-t-il envoyé un message le week-end dernier ? C'est reparti pour un tour et pour un titre.
Assurément, le message a été envoyé. Alors, il a été envoyé, c'est surtout les autres qui n'ont pas su répondre au premier message, parce qu'on jouait un jour avant, donc ils se sont imposés assez facilement. Mais personne ne s'attendait à la chute, surtout, de Liverpool, puis d'Arsenal, à domicile. Surtout, notamment Liverpool, qui en recevant Crystal Palace, qui est quand même une... petite équipe, entre guillemets.
Oui, parce que Aston Villa, pour Arsenal, Aston Villa fait partie du Big Four. Donc
voilà, Aston Villa se bat pour Unai Emery qui venait en revanchard, puis un jeu vraiment
content,
très précis.
Hein.
Oui, un petit peu content.
Ça fait que du côté. Ils ont été très bien traités.
Du côté de City, ils ont assumé leur rôle. C'est-à-dire qu'on les attend toujours sur les fins de saison et les joueurs répondent présents. Ils sont là. Et aujourd'hui, alors que la semaine dernière, moi, j'avais la sensation qu'un Liverpool pouvait peut-être faire quelque chose, on a plus l'impression d'une dégringolade du côté Liverpool entre la défaite en Coupe. Contre Manchester United, la défaite contre Atalanta 3-0 à domicile, mais ce qui est une claque mais phénoménale. Ils n'avaient pas perdu pendant 33 matchs à domicile, ils prennent 3-0 et là la défaite encore à domicile contre Crystal Palace. J'espère que la fin de règne de notre ami Klopp ne se finisse pas un peu plus durement qu'il ne pouvait l'espérer, alors qu'il y a encore quoi, 3 semaines, on pensait qu'il pouvait réussir le triplé.
David Lortolari, est-ce qu'il y a un peu ce côté bis repetita là, qui va aller dans la tête des joueurs de Liverpool et d'Arsenal, non seulement on se saborde nous-mêmes, un peu comme d'habitude, et en plus City, bah, comme d'habitude, finit en boulet de canon.
Ouais, City nous a habitués quand même, c'est ce que disait Hervé, c'est-à-dire City nous a habitués à arriver armés au moment du mois de mars, avril, mai, et de ne plus lâcher grand-chose, voire rien, et faire la différence à ce moment-là. Arsenal, est-ce que on a parlé pendant des années, voire des décennies presque, d'une équipe trop tendre, trop jeune.
Mais on a entendu notre auditeur, hein. Il avait 7 ans.
Ah ben voilà.
Quand Arsenal a remporté son dernier titre de champion, c'était il y a 20 ans.
Alors après, il y a Arsenal, on a bien vu qu'il y avait deux éclairages. Il y a un éclairage où Arsenal est irrésistible, puis dans le même match, c'est beaucoup plus discutable. Donc Arsenal, je me méfierais quand même, avec ce courant un peu alternatif. Quant à Liverpool, je me suis posé la question à partir du match qui nous a un peu ébouriffé, la défaite 0-3 contre l'Atalanta. Je me suis posé la question, est-ce que c'est l'épuisement, le départ de Klopp, parce que, alors c'est difficile, ce sont des conjectures, mais je me suis demandé si Liverpool avait pas, une fois qu'on a passé un cap, que mentalement l'influx retombe, est-ce qu'on arrive à se remobiliser, est-ce qu'on arrive à retrouver 100% de ses capacités, la question que je me suis posée. On va le savoir dans les prochains matchs, mais pour Liverpool, les signaux sont mauvais.
Qu'est-ce que ça veut dire, Sheriff Gamour?
Non, je suis l'Atalanta régulièrement. Je peux vous assurer que c'est une équipe. Ils sont pas extra. C'est pas du niveau de l'Inter. Hein. Je vous l'accorde.
Non, mais ça fait plusieurs saisons qu'on sait que cette équipe peut réaliser des miracles.
Voilà. Par contre, eux, ils sont sur comment ça s'appelle, sur une tendance. Ils sont régulièrement là dans les coupes d'Europe. Ils brillent aussi en championnat, en Serie A. C'est une équipe qui attaque, qui prend des risques, qui fait du jeu. Donc j'ai pas été surpris quand
3-0 quand même.
Quand Scamacca est dans un bon soir, il les met au fond. Non, après, j'avais déjà perçu certaines limites de Liverpool. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs, que je ne souhaitais pas que Xabi Alonso y aille. Parce que je me disais, cette équipe, elle n'est pas si forte que ça, dans le sens où c'est une équipe qui est toujours en apnée, qui est toujours dans l'effort, qui est toujours dans les courses, dans la multiplication des courses, dans le contre-pressing. Quand ça marche et qu'on prend rapidement l'avantage, un avantage conséquent, ils sont irrésistibles, mais quand ça commence à buter, comme ils l'ont fait hier, malgré les 17 tirs au but, hein, je remets pas en cause ça.
C'est pas durable, hein, pour reprendre la métaphore.
Non, c'est pas durable sur la distance. Moi, le seul intérêt de cette première ligue, c'est qu'en général, il y a toujours une équipe, voire deux équipes, qui se détachent à la sortie du Boxing Day. Et cette année, ce n'était pas le cas. On avait ces trois équipes, et j'étais assez étonné. Mais tant mieux pour la Première Ligue, on avait ces trois équipes. Et puis, bon, on est en train de voir que Arsenal, pratiquement le Arsenal qu'on connaît, justement, trop tendre, un peu romantique et esthétique.
Ils peuvent nous démentir en milieu de semaine.
Ouais, ils peuvent nous démentir parfaitement. Et puis, il y a la valeur sûre, Manchester City, comme le Real en Espagne. Et c'est des valeurs sûres, et comme l'Inter en Italie.
C'est même au-delà du PSG. Au-delà de ces deux exemples, hein, je vous coupe, Hervé.
Mais c'est la dernière fois.
Si City remporte le sprint final, ce serait le 4e titre de rang pour les Citizens. C'est le 6e depuis l'arrivée de Guardiola. Le 6e, donc en 8 ans.
Non, mais vous rendez compte, Manchester
City. 2016.
Ah non, mais là, c'est proprement phénoménal. Et puis, ce qu'il a donné au jeu, Guardiola, il y a les résultats, c'est une chose, et le jeu. Et là, lui, il a réussi à associer les deux. Et en plus, il a gagné la Ligue des Champions. Déjà, parce qu'on l'avait tellement moqué pour ne pas gagner cette C1 parce qu'il n'avait pas Messi. En gros, il l'a gagné le jour où il avait Messi. Quand il ne l'avait plus, il n'a pas gagné. Bon, là, il a eu Haaland et ça lui a permis aussi de remporter cette Ligue des Champions. Donc, la marque qu'il a imprimée sur le championnat d'Angleterre, c'est proprement phénoménal. Mais je le trouve un petit peu dur quand même avec Liverpool. C'est vrai que je pense que Liverpool, c'est peut-être une équipe en bout de souffle, peut-être. Mais enfin, c'est quand même une équipe qui joue pour le titre encore aujourd'hui. Oui. Face aux deux mastodontes dont on parle. C'est-à-dire Arsenal, peut-être équipe tendre, mais qui a montré quelque chose cette saison. Et City,
on a vanté la qualité. Non, comparé à l'année dernière, il y a 2 ans, moi, je les voyais couler. Et en fait, ils sont
toujours à la lutte.
Ils ont 20 points d'avance sur United quand même. Hein.
C'est pas rien quand même.
Ils sont encore compétitifs. Mais pour en venir à City, rappelez-vous le nombre de matchs où Kevin De Bruyne n'a pas joué et l'équipe est restée performante. C'est proprement.
Oui, mais il y a
on
des
peut
moyens.
Se passer.
Alors, mais Manchester City, ils ont 12 équipes.
Bah oui. Exagère, mais d'accord.
Tu vois le banc l'autre jour au Real Madrid, mais c'était un truc
de Bruyne,
c'était incroyable.
De Bruyne, et même une petite période où Rodri n'était pas là, mais il continuait quand même de performer.
Mais Malande,
bon, bah, certains diront oui, qu'en ce moment, ils n'ont même plus besoin d'Alande pour gagner des matchs. Donc, il reste 6 matchs pour chacune de ces 3 équipes candidates au titre en Angleterre, avec à chaque fois, pour elles, une confrontation contre Tottenham, qui sera un drôle de juge de paix, à défaut d'être un candidat au titre. La Première Ligue, c'est déjà fini dans Radio Foot. On va finir sur la Ligue 1. Oh. Très spectaculaire.
Très spectaculaire.
Le contrôle de Tolisso. La frappe est gagnée. Le but de Tolisso. Qui ouvre le score pour l'Olympique Lyonnais. Avec cette frappe sous la barre transversale.
Je pencherai pour Del Castillo.
Castillo qui s'élance. C'est dans la lucharne d'Anthony Lopez. Allez, Alex Lacazette, la volée.
Oui.
Et en même temps, venir au Groupama Stadium, marquer 3 buts, tirer 2 fois sur les barres et perdre le match, c'est sûr que c'est une sacrée soirée, quoi.
Oui, la sacrée soirée d'Éric Roy et de Brest à Lyon, la 29e journée de Ligue 1 ne nous aurait-elle pas livré le plus beau match de la saison en France ? Le succès renversant de Lyon à domicile contre le stade brestois, donc 4-3, alors que Brest menait 3-1 près de la fin, alors que Brest est deuxième au classement. Mais l'OL aura décidément un double visage cette saison, capable de remonter spectaculaire au classement, comme dans un simple match. Vous y étiez
Non, j'y étais pas, mais j'ai regardé évidemment. Et c'est vrai qu'on a vu le Lyon qu'on voit depuis quelque temps, avec une sorte de réaction, de capacité, quand ils sont menés à revenir et à glaner tous ces points. C'est assez phénoménal parce qu'on parle d'une équipe quand même qui a été dernière au mois de décembre et qui aujourd'hui est européenne.
Un peu le Leverkusen,
parce est septième.
Leverkusen de Ligue 1, d'une certaine
en
manière.
En quelque sorte,
parce
que
lui.
Oui, parce que septième, sachant qu'ils jouent la finale de la Coupe, même s'ils perdent la finale de la Coupe, le septième sera européen. Donc de fait, ils sont aujourd'hui dans les clous pour être européens, même si les équipes derrière ont un match en retard. Mais il n'empêche qu'on voit s'écrire une histoire assez incroyable avec Pierre Sage, qui était là un peu par hasard, hein, parce que personne n'imaginait qu'il allait tenir sur la durée.
Troisième entraîneur de Lyon cette saison.
Troisième entraîneur de Lyon cette saison. Et surtout avec un président qui a tendance à changer assez vite les choses. Hein, on l'avait vu du côté de Molenbeek. Donc, ce qu'il a réussi à faire, c'est assez étonnant. Alors, ce qu'il faut, évidemment, c'est que Lacazette se remette à mettre des buts. Parce que, qu'on le veuille ou non, à un moment, c'est l'attaquant de pointe qui fait souvent la différence. Parce que les matchs un peu serrés, parce que longtemps, ils ont eu des matchs ils étaient en grosse difficulté et ils ont eu d'une certaine manière un peu de chance pour s'en sortir sur pas mal de matchs. Depuis quelque temps,
O'Brien, de la tête sur corner.
Voilà, depuis quelque temps, c'est plus simplement de la chance. Enfin, c'était pas que de la chance, mais disons l'élément réussite ou facteur réussite était un peu présent. Il y a eu du jeu, c'est-à-dire qu'on voit une équipe qui tente de faire quelque chose, même s'ils ont été en grosse difficulté contre Brest et que Brest, franchement, ils ont très très mal géré leur fin de match parce qu'ils auraient dû s'en sortir.
Oui, parce que j'allais vous parler de Brest. Alors, mauvais point pour leur fin de match. Vous parlez de jeu. On a très bien joué du côté de Brest avec le béninois Mounier qui a été extraordinaire hier.
Et Doumbia, exceptionnel Doumbia techniquement.
On comprend mieux.
Le Malien.
Je ne vais pas dire qu'on comprend mieux pourquoi elle est deuxième cette équipe, mais peut-être qu'on la prenait un petit peu de haut en disant la Ligue 1 est faite. Bon là c'est Brest qui est deuxième et c'est parce que les grandes cyladrées Lyon et l'OM ne sont pas au rendez-vous, Monaco non plus.
Je pense qu'on juge Brest à sa juste valeur, c'est-à-dire que moi au début de saison c'était une bonne équipe sans plus, mais là ils deviennent vraiment bons, ils deviennent vraiment spectaculaires, ils deviennent vraiment agréables à regarder jouer. Comme le disait Eric Roy, on blinde d'abord derrière, on ne prend pas de but et puis après on marquera tous les buts qu'on pourra marquer. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Je suis désolé, mais les premiers matchs de Brest, moi, m'ont pas emballé. Il y avait de la qualité, il y avait de l'engagement. On met les tripes sur la table,
notamment
pas de problème.
Le premier match contre Lens, où ils sont archi-dominés, ils sont menés 2-0 après un quart d'heure. Voilà. Lens rate 3-4 cases.
Et ils finissent par gagner. Ça s'est peut-être joué là, tiens, qui sait.
Peut-être.
Et là, par contre, ça attaque à tout va. Ils savent qu'ils vont être quasiment européens, peut-être même Ligue des Champions. C'est que, bon, sauf écroulement, on ne sait pas. Et là, ils se libèrent totalement et ils nous font des trucs. Et ils marquent sur coup franc, les buts de la tête, le Mounier. Bon, ça, on était habitués. Il y a un bloc qui monte. Bon, ils ont mal géré la fin parce que, bon, peut-être le coup de l'euphorie. Mais ça commence à devenir une équipe intéressante.
En tout cas, ils sont deuxièmes.
Plus que Lens l'année dernière.
Ils sont deuxièmes, Brest. Alors, derrière Monaco, a un match en moins. Donc, et un point au moins. Donc
contre c'est, Lille,
ça peut être, ça peut être un peu compliqué pour,
donc une des deux équipes
pour garder la deuxième place. Dans une Ligue 1 qui a ménagé ses Européens ce week-end, ce qui a fait couler pas mal d'encre, est-ce qu'on n'a pas paradoxalement eu droit, David Lortolari, à la plus belle publicité du championnat de France cette saison, avec un deuxième surprise qui joue très bien, qui se fait remonter par une équipe qui réalise quelque chose d'assez extraordinaire. 7 buts, du suspense que demande le peuple pour vendre la Ligue 1, parce que c'est un peu le but,
oui.
En étant très terre à terre, c'est pas mal.
Et le scénario, il y a d'autres chapitres aussi. Il y a un arbitrage, il y a un point d'orgue à la fin avec une attente énorme. Et
17 minutes d'arrêt.
C'est un pénalty.
Donc forcément, c'est le plus grand match de la saison.
Un pénalty de Maitland-Niles qui est aussi, alors c'est un terme un peu à la mode, donc je vais être prudent avec ce terme, mais qui n'est pas hyper coté. C'est un joueur plutôt sous-coté parmi les joueurs anglais. C'est lui qui marque, il faut avoir le sang-froid de marquer au bout d'un quart d'heure de rien. Enfin, pas un quart d'heure, mais il y a eu de longues minutes d'attente. Mmh. Le scénario fait que aussi. Mais Lyon, avec les joueurs qu'il a, avec Tolisso, avec Cacré, avec Cherki qui rentre à la fin, avec Lacazette qui a marqué un but important pour le 1-3-2-3, Lyon a le droit aussi de renverser des matchs comme ça. Moi, ça. Au stade où on en est arrivé de cette remontée lyonnaise, ça finit par devenir, sinon inéluctable, du moins crédible.
Avec un arbitrage catastrophique.
Oui, ouais, catastrophique. C'est pour ça que je l'ai mentionné.
C'est bien pour la pub.
Je vais mettre un petit bémol. Je pense que le PSG Monaco 5-2, malgré l'écart au niveau du score, c'était peut-être le vrai sommet. C'est-à-dire, parce que là, on parle
footballistique,
de l'équipe.
Ouais.
Footballistiquement, voilà. Voilà. Même si le Paris, évidemment, a gagné 5-2, au niveau de la qualité, au niveau de ce que les deux équipes ont proposé, c'était parfait pour le spectacle.
Oui, mais il faut mettre la qualité technique, c'est une chose, mais l'émotion, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, vous avez les deux. C'est-à-dire que vous avez la qualité technique, l'intérêt du match, parce que c'est deux équipes, l'une joue l'Europe, l'autre joue la Ligue des Champions, et puis l'émotion, invraisemblable.
Et puis je reviens sur ce que je disais. Là, vous parlez d'un match du PSG, Cyril Guémour. Là, justement, ce week-end,
PSG Monaco, c'est pratiquement les deux meilleures équipes.
Ce week-end, il n'y avait pas le PSG. Justement, il n'y avait pas les équipes.
Ni Monaco.
On attend du PSG avec ses stars qui assurent le spectacle. Là, on a deux équipes. Qui font pas forcément une affiche qui fait pas forcément rêver sur le papier, et on a quand même quelque chose de bien. Il y a une sinistrose quand même un peu sur le niveau de la Ligue 1 en ce moment. Est-ce que là c'est pas une belle piqûre de rappel? On a quand même un championnat qui peut valoir quelque chose.
Oui, on a un championnat. Oui, on a un championnat qui a un certain niveau, mais qui est pas au niveau des autres grands. C'est tout. Faut se l'admettre. Et puis on le voit en Coupe d'Europe. Hein. Pourquoi on a du mal? On a autant de mal en Coupe d'Europe. Au bout d'un moment, quand tous les ans c'est à peu près la même chose, c'est que vous avez une forme de plafond de verre. Dès que vous avez des bons joueurs, ils partent. De toute façon, c'est simple. Un bon jeune, il va en Allemagne, il va en Angleterre. Donc si vous perdez vos meilleurs joueurs, évidemment que les autres sont un peu meilleurs que vous.
Et c'est marrant parce que dans la même journée de championnat, on a eu le phénomène inverse, c'est-à-dire vraiment le truc déprimant de notre 1, c'est la défaite de Rennes à domicile. Rennes, dont on attend chaque année qu'il passe le fameux plafond vert, que ce soit en championnat ou que ce soit en Coupe d'Europe, ils ont encore failli. Et ça, c'est déprimant.
Ouais, parce
Rennes n'arrive pas à s'arrimer dans le top 4.
Vous voulez dire de ne pas avoir des clubs comme ça, ambitieux.
Mais le problème, ça, c'est les problèmes de... Enfin, moi, j'ai la sensation que pour Rennes, ça a toujours été un problème de recrutement sur les dernières années.
Non, parce mais l'équipe, elle est bonne. Là.
Elle n'est pas si bonne que ça. C'est une équipe qui est déséquilibrée. Qui a été déséquilibrée, comme le Lyon que j'ai suivi était déséquilibré, qui avait été d'ailleurs façonné par la même personne, hein, Florian Maurice, qui est très bon pour trouver des joueurs offensifs, un peu plus en difficulté quand il s'agit de trouver des défenseurs.
Moi, ce que je remarque, c'est que David Lortolari reste silencieux pour une fois que c'est un match de Ligue 1 qui s'est montré
indécis,
vers l'avant, sans calcul, avec des buts.
Oui, c'est bon,
ce n'est pas réservé à son championnat
d'Allemagne. Il n'y a eu que 7 buts. Hein.
Hier, c'était un match de Bundesliga.
Qui, pour une fois, n'a pas été cousu de fil blanc, on le rappelle. Hein, c'est quand même la sensation, peut-être l'une des sensations de cette saison au niveau mondial européen. Le sacre en Bundesliga, le premier en 120 ans d'histoire, 120 ans
tout
de même, du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, devant le Bayern, devant Dortmund, devant les autres. Merci Hervé Penaud.
Oh, quel plaisir. Je vais pas attendre 120
David
ans pour revenir.
Mais vous, c'est le bouclier, le bouclier tous les ans. Merci Cherif Guémour. Merci Mathieu De Gueldre. Et merci Pierrot Guérin. Alors ça, s'il y en a un qui est sous-côté, c'est bien Pierrot Guérin.
Non, mais pour moi,
on est là.
Très coté.
Et demain, c'est Annie qui reprend sa place. Très bonne soirée, la fille.